la vie ne t'appartient plus, mais elle appartient à Jésus-Christ le Seigneur. Est-ce que tu peux dire un instant avec moi, ton voisin, rapidement, la vie ne t'appartient plus, elle appartient à Jésus-Christ le Seigneur. Tu peux lui dire ce soir? Amen. La vie ne t'appartient plus, elle appartient à Jésus-Christ le Seigneur. Et on prend ensemble dans Romains 14, Romains 14, versets 7 à 8. Romains 14, versets 7 à 8. Il est dit là: en effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Et dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15 également. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Il est dit là, tout le monde a trouvé, c'est bon? Car l'amour de Christ nous presse. Il y a une traduction qui dit l'amour de Christ nous serre fort ce soir. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, écoutez bien ce qui est écrit là, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et on dit ensemble, amen. Ces textes sont clairs ce soir, et l'apôtre Paul va nous dire que si nous vivons ou si nous mourons, nous vivons pour le Seigneur et nous mourons pour le Seigneur. Il est en train de dire ce soir que la vie dans ce lieu n'appartient à personne. La vie appartient au Seigneur, alléluia. Et soit que tu vives dans ce corps sur la terre, soit que le Seigneur t'aspire par l'enlèvement de l'Église, ou soit que tu le rejoignes par la mort est également pour le Seigneur. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce soir, c'est que c'est une illusion de croire que l'homme vit pour lui-même. Et combien de non-croyants, mais également de croyants, croient qu'ils sont sauvés pour eux-mêmes. La Bible nous dit que si nous vivons, si nous mourons, cela est pour le Seigneur. Dis-moi amen ce soir. Amen. Mais il dit également, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, que Christ est mort. Et que s'il est mort, c'est pour que ceux qui vivent, et ceux qui vivent de la vie de résurrection qu'il leur a donnée, ne vivent plus encore une fois pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts pour eux. Amen. Je te pose la question, quelle autorité a la croix dans ta vie? Est-ce que la croix fait que Jésus a toute autorité et que tu ne vis plus pour toi-même, mais que tu vis pour lui? Ou est-ce que tu vis encore un peu pour toi-même et encore un peu pour Jésus? Est-ce que tu me suis ce soir? La croix, normalement, nous amène à ce que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais nous vivions pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Amen. Ça, c'est normalement ce que la croix fait dans ma vie. La croix a autorité d'amener ces choses. L'amour de Dieu me presse. L'amour de Dieu me sert fort. Plus pour que je vive encore pour moi-même, mais pour que je vive entièrement pour lui. Dis-moi amen ce soir. Amen. Et soit mon premier point, il est tout simple. C'est le même point que la semaine dernière. On va encore enfoncer le clou ce soir. C'est Jésus-Christ est Seigneur et il n'est pas simplement un sauveur. Dis-moi amen. Amen. J'ai encore une fois répété ça. Jésus-Christ est Seigneur, il n'est pas juste un sauveur.
Amen.
On va encore essayer une troisième fois. Jésus-Christ est Seigneur, il n'est pas simplement un sauveur.
Amen.
Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'apôtre Paul va dire que si nous vivons pour le Seigneur, pas pour le sauveur. Si nous mourons pour le Seigneur, pas pour le sauveur. Et je vous dis la semaine dernière qu'un des graves dangers qu'on a dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'on prêche, excusez-moi l'expression, ce que j'appelle le cinquième évangile. Qu'est-ce que c'est le cinquième évangile? C'est présenter aux gens qui viennent à Jésus simplement la dimension de Jésus sauveur. On leur dit par exemple que si tu viens à Jésus, tu seras pardonné de tous tes péchés, guéri de tes maladies, tu vas être consolé, délivré, relevé. Et oui, c'est vrai, dis-moi amen ce soir.
Amen.
Mais si simplement on s'arrête à prêcher ça, alors on a un grand problème dans l'Église. Et pourquoi? Parce que bien souvent les chrétiens vivent leur vie chrétienne un peu avec la lampe d'Aladin. Vous connaissez la lampe d'Aladin? Hein, vous frottez la lampe, il y a l'espèce de génie qui sort. Génie, aujourd'hui j'ai envie de ça. Génie, aujourd'hui j'ai envie de ça. Génie, aujourd'hui j'ai envie de ça. Et certains chrétiens vivent comme ça avec le Seigneur. Seigneur, j'ai envie que tu me donnes ça. Seigneur, je veux que tu me donnes ça. Et on a inversé les rôles parce qu'en réalité c'est lui le Seigneur. Et s'il est Seigneur, c'est la prière différente qu'on doit faire. C'est Seigneur, aujourd'hui qu'est-ce que tu as envie de moi? Jésus, aujourd'hui qu'est-ce que tu as envie que je fasse? Jésus, aujourd'hui, quel chant t'as envie que je chante? Jésus, aujourd'hui, quelle personne tu veux que j'aille visiter? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement sauveur, il est également le Seigneur ce soir. Dis-moi amen. Tu sais, quand on conduit les chants, par exemple, on n'arrive pas en disant, tiens, je fais telle liste. Mais chaque chant que je chante, je dis, Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux ce chant-là ce soir? Chaque prédication, chaque message qu'on prêche, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on prêche ce message? Parce qu'il n'est pas simplement sauveur, mais il est Seigneur ce soir. Amen. Tu devrais crier amen.
Amen.
Sinon, c'est un évangile égocentrique, centré sur tes besoins, alors que l'évangile est centré sur Jésus. Écoutez bien ce que Pierre va dire dans Actes 2, verset 36. Il va dire que toute la maison d'Israël, l'Église y compris, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et non pas Sauveur ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Philippiens 2, verset 10. Il est dit là, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ n'est pas sauveur, mais qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Amen.
Il y a une semaine, je vous ai dit que dans les évangiles, vous trouvez rarement Jésus sauveur. Vous trouvez toujours la notion de Jésus comme Seigneur. Par exemple, Marie, quand l'ange vient la voir, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté ». Alors qu'est-ce que ça veut dire Seigneur ce soir? On revient sur ce terme de Seigneur. On a un peu du mal avec la seigneurie de Jésus, vous savez pourquoi? Parce qu'on vient d'une démocratie. Et malheureusement, on est habitué, nous, à voter pour dire ce qu'on a envie. J'aimerais te dire une chose ce soir, c'est que le royaume de Dieu n'est pas une démocratie, c'est une théocratie. Oh là là là, tu devrais crier « Amen ». Est-ce que vous dormez ce soir? T'es avec moi ou quoi? C'est une théocratie. Ça veut dire que c'est Dieu qui est Seigneur, c'est pas toi le Seigneur, c'est lui ce soir.
Amen.
Mais la deuxième raison, c'est qu'on a gardé encore l'image des seigneurs dans le Moyen-Âge et on identifie souvent Jésus comme le Seigneur du Moyen-Âge qui vient méchamment nous trouver pour que tout lui appartienne. Non, notre Seigneur est un Seigneur rempli d'amour.
Amen.
Mais malgré tout, la Bible dit qu'il est quand même Seigneur. Et le mot Seigneur, ça veut dire quoi? En grec, c'est un mot qui veut dire kurios, qui veut dire maître, propriétaire, souverain. Celui qui a l'autorité absolue, ça veut dire en gros que tout lui appartient.
Amen.
Vous me suivez? Et là, il est en train de dire que Jésus est Seigneur. En gros, il est en train de dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne donnes pas ta vie à Jésus Sauveur, mais à Jésus Seigneur. Tout lui appartient. Et je vous ai dit il y a une semaine que bien souvent, dans l'Empire romain, les esclaves appelaient leur maître de ce terme-là, Seigneur, kurios. Parce que les esclaves comprenaient que leur vie, leur temps, tout ce qu'ils avaient maintenant appartenait à leur maître. Et je vous dis, il y a une semaine également, que lorsqu'ils travaillaient, bien souvent ils travaillaient pour le Seigneur, et le peu de temps libre qu'ils avaient, c'était pour eux. Et ça, c'est une notion de ce que c'est qu'un Seigneur. Tout mon temps est pour lui, et s'il me permet un peu de temps libre, c'est pour moi. Est-ce que vous me suivez?
Amen.
Vous savez, nous, on croit faire une gratitude au Seigneur quand on vient le dimanche matin à l'église. On croit lui faire un cadeau quand on vient le mardi soir. Seigneur, ce soir je viens, t'as vu? Mais c'est normal, ton temps lui appartient, il est le Seigneur. T'es pas en train de lui faire un cadeau, t'es en train de lui rendre le temps comme lui appartient, ça lui appartient déjà à lui, pardon, amen. Ça lui appartient. Quand les chrétiens disent « je donne mon offrande à Dieu », mais encore heureux que tu la donnes. Elle appartient déjà au Seigneur. Quand les chrétiens disent « j'ai lu ma Bible, j'ai prié », mais encore heureux, ça appartient au Seigneur. Ta vie appartient au Seigneur. La Bible dit que tu es un esclave de Jésus ce soir. Parce qu'il est Seigneur, alléluia. Alors la question que je te pose c'est, est-ce que Jésus est bien Seigneur de ta vie ce soir?
Amen.
Dans Luc 6, 46, je lis rapidement, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites pas ce que je dis, Seigneur ?» Vous savez, dire Seigneur, c'est une chose, mais vivre la seigneurie de Jésus en est une autre. Jésus dira à la fin des temps, plusieurs me diront « Seigneur, Seigneur », mais il leur dira « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi ». Et je crois que c'est important de réaliser, est-ce que vraiment ce soir il est Seigneur? Est-ce que juste je dis Seigneur, Seigneur, ou est-ce que réellement Jésus est Seigneur de ma vie ce soir?
Amen.
Il y a moins de amen, mais je ne m'attendais à ça. Hein. Alléluia. Écoutez bien ce que dit Jésus encore une fois. Dans Matthieu 11, verset 28, il va dire cela, le Seigneur. Venez à moi. Allons le lire ensemble, tout le monde le connaît ce texte. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29, prenez mon joug. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Verset 28. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est normalement le verset qu'on aime bien dans les Écritures, oui ou non? Même quand j'étais au culte à New York, le dimanche après-midi, le pasteur a prêché sur ce verset. C'est le verset qu'on aime, et ce verset-là, bien souvent, il nous amène à Jésus Sauveur. Si quelqu'un ce soir est fatigué, si quelqu'un est chargé, oui, tu dois venir à lui. Il est le Sauveur qui est prêt à donner du repos. Est-ce que vous croyez que Jésus donne du repos ce soir?
Amen.
C'est la vérité. Et quelques temps derrière, je faisais une visite chez une sœur, et puis je m'en vais, et puis la sœur, elle n'avait pas eu le temps de me dire qu'elle était malade de la jambe droite, et elle n'a pas osé me dire « Stéphane, prie pour moi ». Et on a eu une réunion le soir. Et pendant la louange, j'ai une parole de connaissance, et Dieu me dit « Dieu guérit une femme de la jambe droite ». Elle a été guérie ce soir-là. Elle me disait également qu'elle était malade de peau grave, et pendant les cultes qu'on a fait sur la Sainte-Seine, elle a pris le pain et le vin dimanche matin, elle était instantanément guérie. Elle ne pouvait pas se baigner dans de l'eau salée, elle se baigne à la mer aujourd'hui.
Amen.
Ça, c'est Jésus qui est sauveur, oui, dis-moi Amen ce soir.
Amen.
Mais si on s'arrête à ça, frères et sœurs, il nous manque une partie du texte. Et bien souvent, les chrétiens soulignent au stabilo jeune, oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais le problème, c'est que la Bible parle également du verset 29. Et qu'est-ce que la Bible dit sur le verset 29? Prenez ensuite mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et ça, c'est également la suite du verset. Et ça, c'est la dimension Jésus Seigneur, et pas simplement la dimension Jésus Sauveur. Il te dit, toi qui as trouvé du repos, maintenant prends sur toi le joug de Christ. Reçois les instructions. C'est quoi les instructions? C'est les commandements du Seigneur.
Amen.
Et obéis à sa parole. Dis-moi Amen ce soir.
Amen.
De quoi nous parle le joug ce soir? Quand Jésus dit, prenez mon joug, un joug c'est quelque chose qu'on mettait sur les bœufs pour permettre aux bœufs de marcher dans la même direction. Vous savez, si le fermier oubliait de mettre le joug, le bœuf il tournait un peu partout. Il partait un peu en rond comme ça. Et il y a des chrétiens qui sont sauvés, délivrés par Jésus, et ils continuent à tourner en rond. Comme ça vous parle ce soir ou pas? Ah, tu les vois un peu une fois bien, une fois pas bien, ils font leur direction, et après ils veulent prendre des projets, ça marche pas, ils restent à un autre projet. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que celui qui donne la direction, c'est le Seigneur. Et lorsqu'il dit « prenez mon joug », c'est accepter que c'est plus moi qui décide, c'est Jésus qui décide. Et ça, c'est la dimension de Jésus Seigneur. Il te met le joug. T'es plus en train de faire comme tu veux. Tu vas là où le fermier te dit. Tu vas là où Jésus te dit. Dis-moi Amen ce soir. Mais le joug me parle également de quoi? Il me parle de travail ce soir. Quand on mettait un joug à un bœuf, c'était pourquoi faire? Pour tirer une charrue. Et le joug permettait à la charrue d'être tirée. Et ça me parle de travail ce soir. Ça me parle de service. Est-ce que frères et sœurs, vous qui avez reçu Jésus comme Seigneur, vous avez mis le joug de Christ pour permettre à Dieu de se servir de vous dans son œuvre? C'est ça. Quand tu prends le joug, c'est pour tirer la charrue. Alléluia. C'est pour travailler au service de Dieu. Il m'a sauvé, non pas pour être libre, mais il m'a sauvé pour être esclave et travailler pour lui. S'il n'y a pas d'amen, je comprends, mais dis-moi quand même amen ce soir.
Amen.
Il t'a sauvé pour ça. Il y a des chrétiens qui sont en vacances. Et t'es pas en vacances ce soir, dis-moi amen.
Amen.
Dis à ton voisin, t'es pas en vacances ce soir. T'es pas en vacances. Normalement, s'il t'a libéré, normalement tu reçois son joug. Et si tu reçois son joug, c'est pour travailler pour lui. Vous savez, je vous dis quelque chose, frères et sœurs, même quand tu es en vacances, en réalité, tu n'es jamais vraiment en vacances. J'étais dans la famille de ma femme pendant cet été, et j'avais le joug de Christ sur moi. Mon corps physique se détendait, mon âme se réjouissait, mais mon esprit continue à prier, Seigneur. À qui tu veux que je parle? Seigneur, à qui tu veux que je témoigne? Seigneur, Éphésiens 2.10, tu as préparé des œuvres d'avance afin que je rentre dedans. Quelles sont ces œuvres? Je suis esclave, je ne suis pas libre, mais en vacances, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Et j'ai eu l'occasion de témoigner de Jésus à toute la famille de ma femme.
Amen.
En vacances, tu sers le Seigneur, dis-moi Amen ce soir.
Amen.
Alors, est-ce que tu as mis le joug?
Amen.
Est-ce que tu as reçu les instructions du Seigneur ce soir?
Amen.
Vous savez, même si Jésus dit quand même dans ce texte intéressant que le joug et le fardeau sont légers, et c'est vrai que c'est facile d'obéir à Dieu. Hein? La loi de Christ, Christ vit en nous, elle est facile à être accomplie. Mais c'est quand même un fardeau et c'est quand même un joug. Et c'est quand même quelque chose qui me parle d'esclavage. Si tu as reçu Christ, tu n'es pas vraiment libre ce soir. Tu es libre de Satan, libre des démons, libre du péché, mais tu es venu esclave de Jésus.
Amen.
Amen. Ça, c'est mon prochain point. Dans, prenons ensemble Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12. J'aimerais vous faire comprendre ce soir que vous êtes plus libre de faire ce que vous avez envie. Nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, si nous mourons, c'est pour le Seigneur ce soir. Colossiens 1, verset 12, il est écrit là. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Hein? Qui nous a délivrés, on aime ça, alléluia, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen.
Amen.
Que dit ce texte? Il dit que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais est-ce que le texte s'arrête là? Non. Il dit que Jésus ensuite nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En gros, il est en train de te dire qu'il t'a libéré d'un esclavage pour t'amener dans un autre royaume où il y a un autre roi et devenir esclave de quelqu'un d'autre que Jésus, le roi des rois. Il n'est pas en train de te dire qu'il t'a libéré des ténèbres complètement pour vivre une vie comme tu as envie de vivre. Il t'a libéré pour te transporter dans un nouveau royaume. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont été libérés par Jésus de la gueule de Satan, mais ils sont un peu entre les deux, ils vivent encore pour eux-mêmes. Accepte ce soir qu'il t'a libéré pour être un nouvel esclave, non plus de Satan, mais un esclave de Jésus ce soir.
Amen.
Est-ce que vous croyez cela, oui ou non? Un autre texte qui m'en parle, Romains 6, versets 17 et 18, il est dit là, c'est quand j'ai compris ça, peut-être pour ça que vous comprenez ce que je vous dis ce soir, quand j'ai compris ça, ma vie elle a changé. Je suis juste un locataire, je ne suis pas propriétaire de ma vie ce soir. Ma vie ne m'appartient plus, elle appartient au Seigneur. L'apôtre va dire, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, donc j'étais esclave avant, hein, vous avez
obéi
de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchi du péché pour être devenu esclave de la justice. Amen.
Amen.
Qu'est-ce qu'il dit ce texte? Il est en train de te dire qu'avant, tu étais esclave du péché. Donc, si tu es esclave du péché, tu es esclave de Satan. Il dit ensuite que Christ t'a affranchi.
Amen.
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 Il t'a libéré. Libéré de qui? Libéré de quoi? Libéré de ta vieille nature. Libéré de Satan. Libéré du péché. Libéré du monde. Mais il ne t'a pas laissé complètement libre. Il t'a ensuite fait devenir un autre esclave. Mais esclave de la justice. Et ça, c'est la dimension Christ et Seigneur. Quand tu comprends qu'il t'a libéré de quelque chose pour que tu deviennes esclave dans son royaume, tu n'es plus en train de vivre avec la dimension Christ est seulement mon sauveur, il m'a guéri, il m'a libéré, mais tu vis avec la dimension Christ est mon Seigneur. Tu es devenu esclave ce soir, est-ce que tu me suis hein? Mais pas esclave de n'importe quoi, esclave de la justice. Esclave du roi des rois, tu devrais crier Amen ce soir. C'est le meilleur des esclavages, c'est le plus beau des esclavages. Tu es devenu esclave de Jésus-Christ, tu n'es pas complètement libre. Vous savez, les chrétiens, parfois, ils me disent, tiens, je vais me marier comme ça. Tiens, je quitte l'église. Tiens, je fais ci, je fais ça. Et je dis, mais est-ce que tu as consulté au moins ton propriétaire? Ah non, je le ferai après, mais c'est dommage. Tu n'es pas vraiment libre, consulte-le, tu es devenu esclave de la justice ce soir. Vous avez un esclave libéré devant vous, mais un nouvel esclave, celui de Jésus-Christ. Dis-moi,
amen.
Tu es esclave de Christ ce soir. Et si les chrétiens mettent en pratique cette parole, il y a beaucoup de choses qui vont se régler dans leur vie ce soir. Vous savez, moi ce que j'aime, c'est quand l'apôtre Paul, se présente dans les épîtres, il se présente souvent comme le serviteur de Jésus-Christ, mais quand on prend la racine du mot grec, c'est pas vraiment le mot serviteur, c'est aussi le mot esclave. Par exemple, je prends pour vous dans Philippiens 1, verset 1. Paul va dire, Paul et Timothée, serviteur de Jésus-Christ. Je me suis intéressé à ce terme serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire serviteur de Jésus-Christ? En grec, serviteur de Jésus-Christ, c'est doulos, le mot doulos, tout simplement, qui veut également dire esclave. Donc si on prend littéralement les Écritures avec le texte original, Paul se présente comme étant l'esclave de Jésus-Christ. Il est en train de dire, il m'a libéré, mais je ne suis pas encore réellement libre, je suis aujourd'hui esclave de Jésus. Et quand Jacques se présente, il dit, Jacques, serviteur ou esclave en grec de Jésus-Christ. Quand Pierre écrit son épître, il dit, Pierre, doulos, esclave, serviteur de Jésus-Christ. Quand l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va porter le Sauveur, elle va répondre, je suis la servante du Seigneur. En grec, doulos, je suis l'esclave du Seigneur. Elle n'est pas en train de dire, je suis libre de faire ce que je veux. Non, je suis esclave du Seigneur. Doulos. Vous savez, des fois, on a une traduction sympa dans nos Bibles. Hein? On préfère le mot serviteur. Hein? Mais si on va à la racine du mot grec, c'est le mot esclave. Esclave de Jésus. Dis à ton voisin Thierry, esclave de Jésus. Esther, esclave de Jésus. Moni, esclave de Jésus. Patrick Zerafa, esclave de Jésus. Lucas, esclave de Jésus. Esclave de Jésus. Amen. Esclave de Jésus. Vous savez, excusez-moi pour ceux qui sont Suisses ce soir, dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas les Suisses. Les Suisses sont toujours neutres. Il n'y a pas de neutre dans le royaume de Dieu. Ou t'es esclave de Satan, ou t'es esclave de Jésus. Tu ne veux pas encore vivre pour toi-même. Dans le royaume de Dieu, voter blanc n'existe pas. Il y a des chrétiens qui me disent « je vote blanc ». Dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas voter blanc. Ou tu es esclave de Satan, ou tu es esclave de Jésus. Mais il faut que tu choisisses ton camp ce soir. Dans le royaume de Dieu, et je me réjouis que Dieu arrive pour notre bien ce soir, il n'y a pas de purgatoire non plus. Ou tu vas au ciel, ou tu vas en enfer. Où tu vas ce soir? Tu es esclave de qui? Qui a autorité sur ta vie? Qui règne en toi ce soir? C'est Jésus ou c'est l'autre? Et vous devriez crier Jésus normalement. Hein? Il est Seigneur, alléluia. J'allais vous dire une chose, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Si tu obéis, bien que tu sois chrétien au Seigneur, alors tu es l'esclave de Jésus. Mais si quelque part tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus sauveur, mais tu obéis encore au principe des ténèbres, et tu n'obéis pas quand Dieu te montre quelque chose, tu n'es pas vraiment encore esclave du Seigneur. Et il y a besoin de prendre une décision d'être libéré de cette rébellion ce soir. Je veux être un esclave du Seigneur. Dis-moi amen.
Amen.
On va lire un autre texte. Dans Luc 12, versets 16 à 21. Luc 12, versets 16 à 21. Ça, c'est mieux que l'évangile à l'eau de rose. Hein. Quelqu'un dit un jour, l'évangile à l'eau de rose apporte des résultats à l'eau de rose. Luc 12, comme on a trouvé, versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Pardon, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemander. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sert-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour qui? Pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen.
Amen.
Ce texte me parle d'un homme qui a amassé des trésors, mais il les a ramassés pour lui-même. Il a cru que dans le royaume, tu pouvais être neutre. Non, il a vécu pour lui-même. Il a ramassé pour lui-même. Et la Bible dit que Dieu lui a dit insensé. Ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et voilà que cet homme est ramené à la dure réalité de la vie. C'est qu'il ne peut pas vivre pour lui-même. Il avait des projets, des envies, des idées, mais Dieu le ramène à la réalité. Non, ce soir même, tu vas comparaître devant le trône de Dieu. Et voilà qu'il, je n'étais pas dans le ciel avec le Seigneur, il se retrouve devant le trône de Dieu. Il devait vraiment être embarrassé de savoir qu'il a vécu toute sa vie pour lui-même. Et moi, j'ai cette réflexion en préparant le message que certains seront embarrassés un jour d'avoir vécu toute leur vie pour eux-mêmes. Ce n'est pas interdit d'avoir des vacances, je vous rassure, d'avoir de l'argent, d'avoir une maison, mais de vivre pour soi-même, de ne pas mettre Dieu au centre, de ne pas chercher d'abord les richesses de Dieu, de ne pas chercher à ce que tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient, soit à Christ, non pas le Sauveur, mais le Seigneur, c'est me mettre en danger spirituellement, insensé, lui dire à Dieu. Et je crois que c'est important de savoir qu'est-ce que je fais de ma vie. Est-ce que ce soir, je suis riche pour moi-même ou je suis riche pour Dieu?
Amen.
Amen. Vous savez, mon papa, je peux vous dire une chose, c'est qu'il est riche pour Dieu. Hein, vous savez, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Certains, peut-être qu'ils auront un jour une tente Quechua dans le ciel. Peut-être d'autres, ils auront un beau palais. Ça, je crois que c'est une histoire à ce niveau-là. Un jour, c'est quelqu'un qui arrive au ciel comme ça, et puis il voit Jésus qui l'accueille. Et puis Jésus dit, viens, je t'amène dans ta maison parce que j'ai préparé plusieurs maisons plusieurs demeures dans la maison de mon père, pardon. Et il l'amène et puis il voit un beau palais en or avec des bijoux, des pierres précieuses, avec des choses qu'on voit dans la nouvelle Jérusalem extraordinaire. Et il dit à Dieu, ah, ça c'est ma maison. Et Dieu dit, non, c'est pas ta maison, suis-moi. Il l'amène plus loin, il y a une autre maison, une belle villa. Il dit, c'est celle-là ma maison? Il dit, non, c'est pas non plus ta maison. Et il va un peu plus loin et puis il voit une espèce de cabane et le Seigneur lui dit, voilà où est ta maison. Et lui, il dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi c'est ma maison? Et Dieu lui dit, on n'a pu fabriquer qu'avec ce que tu as donné au Seigneur. Vous riez jeune, ça va, vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que Jésus-Christ est sauveur ou il est Seigneur ce soir? Amen, il est Seigneur. Je vais prendre encore un autre texte en Matthieu 16, verset 25. Je lis pour vous, il a celui qui voudra, on le connaît par cœur ce texte, hein. Sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, à cause de l'évangile, à cause de Christ Seigneur, la trouvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il, que donnerait un homme pardon, en échange de son âme? Amen. Jésus est clair, il dit que si tu gardes ta vie pour toi-même, si tu vis pour toi-même, tu risques de tout perdre. Mais si tu donnes tout pour le Seigneur, si tu rentres dans la dimension de Christ Seigneur, alors tu vas tout gagner. Tu vas tout perdre, humainement parlant, Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le royaume de Dieu, tout ce que tu perds pour l'évangile, tu le gagnes au centuple.
Amen.
Jésus dira, vous qui m'avez suivi, vous aurez des maisons, vous aurez des frères, vous aurez des sœurs, vous aurez un héritage dans le royaume de Dieu. Celui qui veut garder sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perd pour la bonne nouvelle, il la retrouvera.
Amen.
Vous savez cette histoire des chasseurs là-bas en Inde? Il y a une histoire qui dit que les chasseurs en Inde, pour attraper les singes, ils font un trou dans l'arbre, ils mettent une banane. Et comme le singe, il est très gourmand, il vient et quand il voit la banane, il met la main dans le trou pour saisir la banane. Et les chasseurs mettent une menotte. Et lorsque la menotte se met en place, le singe est pris, le chasseur vient, il tue le singe et c'est terminé pour lui, il le mange. Vous savez une chose? Les chasseurs disent que si le singe simplement lâchait la banane, il ferait comme ça, sens inverse avec la main, il sauverait sa vie. Et moi j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ce soir, c'est lâche ta banane. Lâche ta banane ce soir. Si tu perds ta vie, tu vas la gagner aux yeux du royaume de Dieu.
Amen.
Mais tout ce que tu gardes, tu risques de le perdre un jour. C'est quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a dit, Stéphane, c'est pas Jésus sauveur, hein. C'est Jésus Seigneur. Ça, tu le perds. Ça, tu perds. Telle personne, tu perds. Telle chose, tu perds. Mais tu viens et tu me suis par la foi. Et je fais le bilan, ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis passé par les eaux du baptême. Tout ce que j'ai lâché pour lui, tout, il me l'a redonné au centuple. A donné une épouse, un appel, des amis, une famille. Tous mes frères et mes sœurs servent le Seigneur, mes cousins, ils viennent à l'évangile. Aujourd'hui, j'ai perdu quelque chose aux yeux de ce monde, mais j'ai tout gagné en Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt à peut-être tout perdre, humainement parlant, à passer pour un fou, mais en réalité à tout gagner pour le Seigneur? Amen. Il y a deux sortes de chrétiens. Hein. Il y a le chrétien qui est chrétien, puis il y a le disciple. Le disciple, ce n'est pas celui qui suit Jésus de loin. Le disciple, c'est celui qui est à la croix quand Jésus est à la croix. Le disciple, c'est celui qui entend les paraboles, mais Jésus, en secret, lui explique les paraboles. Les disciples, c'est ceux qui attendent quand Jésus est ressuscité les derniers commandements. Ça, c'est les disciples du Seigneur. Est-ce que tu veux être un croyant qu'à Jésus Sauveur ou tu veux être un disciple qu'à Jésus Seigneur ce soir? On va lire ensemble un dernier texte, ou deux derniers textes. 1 Corinthiens 6. Prenez avec moi, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 6. Verset 13. 1 Corinthiens 6, verset 13. Il est dit là, jamais j'ai prêché sur ce passage, mais là, il a frappé mon cœur en faisant un enseignement. Il est dit là, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. On sait que tout est appelé à passer, même notre corps physique, on aura un corps ressuscité à la résurrection des justes. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, tout ce qui est relation hors mariage. Écoutez bien ce que dit Paul, le corps, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Dis-moi amen.
Amen.
Juste en dessous, verset 15, il dit, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Et encore juste en dessous, au verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et encore une fois, il le dit, que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Il leur rappelle que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Les Corinthiens pensaient qu'en tant que chrétiens, en ayant reçu seulement Jésus Sauveur, ils faisaient ce qu'ils voulaient de leur corps. Mais il leur rappelle que non. Pourquoi? Il donne la réponse au verset 14. Prenez le verset 14 avec moi. Il dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Il est en train de leur dire, ce corps-là, faites plus que vous voulez avec parce qu'un jour Dieu va le ressusciter. Et ce corps, il est prévu pour le jour de la résurrection. On sème infirme, on ressuscite glorieux, dira l'apôtre Paul. Mais ce corps-là, il n'est plus à moi, il est pour le Seigneur. Et il leur dira, même vos membres, tous les membres de votre corps sont pour le Seigneur. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Vous êtes le temple du Saint-Esprit.
Amen.
Qui c'est qui vit cette dimension, honnêtement, ce soir?
Amen.
Hein, personne.
Amen.
Qui c'est qui me dit, moi, je vis Jésus Seigneur ce soir?
Amen.
Alors, je pose une autre question. Qui c'est qui a envie de vivre cette dimension ce soir?
Amen.
Qui c'est qui a envie de dire, Seigneur, je veux passer à un autre évangile? Hein?
Amen.
Souvent, on prêche le cinquième évangile. J'appelle ça le cinquième évangile. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean qui nous parlent de Jésus Seigneur. Et puis nous, on a créé au 21e siècle l'évangile sauveur, vous voyez? C'est moi, moi et encore moi. La Bible dit que tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Et non pas par moi, pour moi et en moi. Dis-moi amen.
Amen.
Il t'invite à passer à une autre dimension ce soir.
Amen.
On va prendre un temps de prière, fermons nos yeux. Vous savez, on va être honnête avec le Seigneur ce soir et on va dire au Seigneur, Seigneur, peut-être que je ne vis pas encore cette dimension. Peut-être que j'ai besoin, Seigneur, de réaliser que je vis encore pour moi-même. que mon argent, mes vacances, mon temps, mon couple, ma famille, c'est moi qui décide comme j'ai envie de la mener. Et bien souvent, je te dis non, c'est pas toi le chef, c'est moi le chef. Et j'ai envie de dire à certains, peut-être vous êtes dans des fosses ce soir, dans des trous, dans des choses compliquées. Peut-être que la raison, c'est que jamais vous êtes rentré dans une dimension où Jésus est le Seigneur. Je rappelle également ce soir, pendant que nos yeux sont fermés, que lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous avons pris le baptême, et je le rappelle pour tous ceux qui sont nouveau baptisés dans ce lieu, vous avez accepté de mourir à votre vie ancienne. Vous avez accepté ce jour-là devant les anges, devant les dominations, devant Satan, devant l'Église réunie, devant le Père qui est dans les cieux. Vous avez accepté de choisir non pas une dimension de Jésus Sauveur, mais une dimension de Jésus Seigneur. Et lorsque vous a sorti de l'eau, après vous avoir baptisé, on vous a dit d'être aujourd'hui en nouveauté de vie et on vous a invité à vivre pour le Seigneur. Aujourd'hui, quel est ton engagement avec le Seigneur ? Est-ce qu'après ton baptême, tu peux dire cette réalité dans ma vie, je l'ai, je ne vis plus pour moi, mais je vis pour lui. Ce soir, Dieu t'invite, il t'invite ce soir à revenir à un évangile qui va libérer ta vie, qui va libérer ton cœur. Un évangile où le centre, c'est plus toi, mais le centre, c'est lui ce soir. Pendant que Gaïda, tu prends la guitare, tu commences à jouer tout doucement, gardons nos yeux fermés. On va prier le Seigneur un instant. Jésus, nous t'adorons ce soir. Commencez à adorer le Seigneur, là où vous êtes dans votre cœur. Commencez à dire, Seigneur, c'est ce que j'ai envie de vivre ce soir. Seigneur, c'est ce que... Et si tu as fait des erreurs, te culpabilise pas. Demande simplement pardon au Seigneur et reprends une vie où Jésus est Seigneur ce soir. Reprends une vie où Jésus est Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Est-ce qu'on pourrait se lever tous ensemble avec les gars ? Commençons à prier là où nous sommes. Seigneur Jésus, nous t'adorons ce soir. Seigneur, te prions pour que ce soir, la parole qui a été semée puisse porter du fruit dans les cœurs. Seigneur, te prions que tous ceux et celles qui sont rentrés dans ce lieu, comprennent les paroles qui ont été prêchées et Seigneur, puissent vivre aujourd'hui. Non plus pour eux-mêmes, Seigneur, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts pour eux. Seigneur, je prie que ta parole maintenant soit impactante dans les cœurs. Je prie que des décisions soient prises et que plusieurs puissent tourner leur vie vers toi et tout te donner ce soir, Père. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen, alléluia.